Du dimanche 9 au lundi 10 février 2003. Cérémonie vaudou. Nous sommes au sommet d'une pente raide. L'idée de la descente nous fait craindre le pire. Devoir remonter. La piste continue à être difficile. Le dénivelé, conforme à une courbe sinusoïdale, respecte des tolérances larges, 150 mètres environ. Montées et descentes s'enchaînent. Les montées nous obligent à tendre nos muscles du haut de la colonne vertébrale aux extrémités des doigts de pied. Les mains tirent sur le guidon et tentent d'arracher la roue avant au sol. J'encourage Franck. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Pousse, pousse, j'ai besoin de toi. Ne renonce pas, chaque coup de pédale nous rapproche un peu plus du sommet de la côte. Je le vois, il n'est plus loin. On se reposera en haut. Il n'a pas le courage de répondre. Nous sommes tous les deux crispés. Il faut se battre contre cette inertie de 200 kilos qui nous attire vers l'arrière. Le moindre relâchement nous obligerait à mettre pied à terre et à terminer la côte à pied. Les descentes permettent à certains muscles de se reposer. D'autres membres sont alors sollicités. Les fesses du copilote rebondissent au mouvement du cadre. Sur un tandem, les secousses se répercutent beaucoup plus fortement sur la selle arrière que sur la selle avant. Sa main droite, agrippée à la manette de frein, est prête à réagir à ma moindre indication. De mon côté, j'ai les deux mains crispées sur les freins. Je scrute les moindres détails de la piste pour anticiper les obstacles. La concentration est à son maximum. Nous nous reposons quelques secondes en haut des côtes. Lookman s'écrie. « Mais pourquoi le monde n'est pas plat? Ce serait bien moins fatigant. » Je lui réponds. « C'est ce qui fait que le Bénin est différent du Burkina Faso. » Lui-même différent du Mali et ainsi de suite. Le relief apporte de l'originalité au paysage. Ces enchaînements de montées et de descentes caractérisent cette région. Chaque côte franchie est différente des précédentes. Le paysage s'exprime sous nos roues. On peut le sentir. Certains pays ont un relief peu prononcé. Tu roules, roules, avec l'impression de faire du surplace tellement c'est monotone. Tout le monde rigole. Chacun a eu cette envie soudaine de rouler sur le plat d'un goudron bien lisse. C'est avec soulagement que les tandems se garent dans la cour de la maison de notre hôte, Évariste. Son cousin le rejoint avec une bouteille de sodabi, liqueur de palme. C'est un bon liquide de refroidissement pour les moteurs. Des cris attirent notre attention. Une peau de tambour vibre. Une cloche sonne à plusieurs reprises. Un sifflet entrecoupe les cris aigus lancés par une femme. Qu'est-ce qui se passe ? Le village implore la protection d'un fétiche, car une femme est malade. Que signifient ces cris ? Lookman et Franck ne sont pas surpris. Ils tentent de nous expliquer. Cette cérémonie cherche à exhorter les malédictions qui s'abattent sur le village. Ils demandent aux vaudous de chasser les mauvais esprits. Ces termes ne me sont pas encore familiers. Je sais juste que le Bénin est le berceau du culte vaudou. Un vaudou, c'est la même chose qu'un fétiche et un revenant. Oui, non... Un vaudou est un fétiche, mais un fétiche n'est pas la même chose qu'un revenant. Alors c'est quoi la différence? Un fétiche est un esprit qui se manifeste à travers un objet. Un revenant est une personne qui a été investie par un esprit. Évariste ajoute. Le vaudou consiste à demander la protection aux fétiches et aux revenants. Ce sont eux qui nous protègent dans la vie de tous les jours. Prenant à partie Franck et Lookman, je demande. Toi, Franck, tu es protestant? Toi, Lookman, tu es musulman. On peut pratiquer une religion et implorer fétiche et revenant? Bien sûr. Moi, je suis chrétien et je vais à la messe tous les dimanches, coupe Évariste. Mes traditions me laissent libre. Parmi les personnes que vous pouvez entendre, beaucoup sont chrétiens, protestants ou musulmans, ce n'est pas un problème. Franck et Lookman acquiescent. Venez, allons assister à cette cérémonie. Une grande cour rectangulaire délimite l'événement. Une cinquantaine de personnes sont placées tout autour. Au fond de la lumière fuse d'une petite case. Tous les regards y sont tournés. Une femme en sort brusquement. Elle se met à courir dans tous les sens, à gesticuler. Ses cris sont perçants. Je jette un regard d'incompréhension à Jean-Christophe. Il n'a pas l'air plus à l'aise. Je me retourne vers Évariste. J'ai encore besoin d'explications, je me sens perdu. Franck et Lookman ont préféré se reposer et nous ont laissés seuls. Le fétiche est dans la pièce du fond. Un homme se charge de le nourrir et de le protéger. C'est le maître de cérémonie. Le fétiche se révèle à cette femme en transe. Il s'exprime à travers elle. Effectivement, elle semble investie par une force mystérieuse. Ses gestes, ses cris, semblent répondre à des impulsions brusques et violentes. Autour d'elle, chacun la laisse faire. Par moments, elle retourne dans la pièce où siège le vaudou. Dehors, des chants et danses s'organisent. Nous sommes enveloppés par un grand mystère. Les vaudous se dévoilent à nous peu à peu. Il faut savoir être patient et laisser à chaque jour sa part de réponse à nos innombrables questions. Au petit matin, Évariste nous convie à assister à une célébration, l'anniversaire des ancêtres défunts de Savalou. Tout le monde s'est retrouvé dans la grande cour du village. Des bancs accueillent les descendants autour de la Sainte, salle dans laquelle sont conservées les reliques des ancêtres. Chacun a sa place, déterminée par l'âge et la situation dans la famille. Le village chante, fête ses racines. Je n'ai pas besoin de décrire la scène à Franck et Loukman. Ils comprennent très bien ce qui se passe et comment tout cela est organisé. Nous quittons Savalou avec cette image en tête. Un village réuni, soudé, autour de traditions vivantes.